Yeah, yeah. Tell me who really wanted everything that they talking about. I already done it. Don't fuck with they narrative and how they spun it like Clive Campbell. I'ma set an example. My flow ample over this sample. Lead to be trampled. Never want to ramble. Head to toe in that camo. Blowing up trees like Rambo. This is the way, bitch. I'm repping that Mando. Get a lot of money. Don't need a Lambo. Back in the day, I was in a minivan. Oh, back in the day, I was in a minivan. No, sipping on something and whipping it slow. 2010. I remember when I was living there. My godmother's in G-Bird. That's my word. Bumping Mac Miller, kids cushion OJ Wiz. Look in the mirror. I'm hoping it's his day. Give a fuck what the kids say. Logic ringing. Back to the rap shit, that two dope boys, that pimp. Give a fuck about a rap list, winning a million, I'm on that list. On the map like an atlas, talk shit, get hit with a fat lip. Smoking that.
Mama ball and papa ball. To see them youth dying in the streets. To my gunshot, you can't walk too free. Light bulb on, everything that. Gunshot the back, east, west and north. Don't you see, everyone that go fast. Danger zone.
Chase you out of earth.
Bien sur le 101.5 FM de Radio G. Et tout de suite, c'est l'heure de Génération Sport. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport en direct de Radio G 101.5 FM ou sur internet www.radio-g.fr. On est très heureux de vous retrouver donc en ce mardi 8 novembre, voilà, pendant à peu près une heure pour parler de toute l'actualité sportive locale et internationale. Au niveau de l'équipe, Faustin n'est pas là, voilà, il est excusé, mais il reviendra sûrement la semaine prochaine quand il sera guéri. En tout cas, il y en a un qui est là et qui est à ma droite, c'est Cédric. Salut Cédric.
Salut tout le monde.
Ça va bien ?
Ça va.
Très bon week-end.
Ouais, week-end fatigant.
Fatigant.
Ouais.
Mais voilà.
Ça, mais dans l'ensemble, ça a été. Ouais.
Ça a été. Était reparti pour une belle émission.
Ouais, et puis on a eu quand même des scénarios un peu foufous cette semaine dans différents sports.
Oui. Pas mal de choses.
On va avoir pas mal d'actualités à traiter.
On verra de quoi tu fais référence, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu d'invité, Cédric, dans l'émission. Et cette semaine, on reçoit un club qui est déjà venu dans l'émission. C'est le club des Anjou Gaels, qui est donc un club de football gaélique à Angers. Et donc, on est très heureux de recevoir Élodie, présidente du club, c'est ça ?
Oui, c'est ça, bonjour.
Donc, bonjour Élodie. Et donc, tu vas nous parler, dès le début de cette émission, d'un événement qui aura lieu à Angers. Alors, c'est un stage de cohésion de l'équipe de France de football gaélique féminine. Donc, on reviendra juste après. Je vais juste faire le petit sommaire de ce qui nous attend donc, pour la suite de l'émission. Donc, on parlera effectivement de ce stage qui va se dérouler à Angers. Et puis, on parlera évidemment des actus locales. On le sait avec le SCO, l'UFAB, le AB, vous en avez l'habitude. On parlera un peu de SCO Rugby. Et puis pourquoi pas un peu des Ducs. En niveau international, on a pas mal d'actu en termes de football, on parlera un petit peu de ça. Et puis surtout en tennis avec la grosse info, évidemment le sacre de Caroline Garcia au Masters à Fort Worth au Texas. Et puis on aura également des actus avec le rugby, le handball, le basket, bref, vous en avez l'habitude, il y aura un peu de tout. Donc on va commencer tout de suite donc avec Élodie. Donc tu es, on rappelle, donc présidente des Anjou Gaels. Je vois que tu portes, alors pour ceux qui sont en radio, je vais vous expliquer. Je crois que tu portes donc le maillot de l'équipe de France féminine de football gaélique, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Je le porte sur moi parce que je fais aussi partie du groupe France pour le football gaélique.
Et donc, ce stage de cohésion, de préparation, il est effectué en vue des mondiaux de football gaélique qui auront lieu donc cet été en Irlande. Ça s'appelle les World Games du 24 au 28 juillet 2023. C'est donc dans la ville de Derry, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, le week-end, ce sera précisément du 11 au 13 novembre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, avant de rentrer dans les détails, ce qui se passera au niveau de ce week-end ?
En gros, ce week-end, il y a les meilleures filles qui font du football gaélique qui vont se retrouver à Angers. On sera une trentaine de féminines pour s'entraîner, faire de la cohésion de groupe. Sur le vendredi après-midi, on aura des entraînements, samedi et dimanche matin. Et puis le reste du temps, ce sera des temps de cohésion, des temps de groupe où on discute, on apprend mieux à se connaître, etc.
Ce groupe-là, justement, est-ce qu'il se connaît déjà un peu, ou est-ce que c'est justement pour préparer, pour créer un vrai collectif ?
Si, c'est vrai que maintenant, ça fait plusieurs années que le collectif existe. Il est entraîné et coaché par deux personnes, Claire Bonal et Jonathan, qui ont à cœur justement de construire le groupe depuis maintenant au moins 3-4 ans. Et il y a un groupe, un noyau solide. Et puis l'occasion de ces stages aussi, c'est de faire venir d'autres filles qui ont un peu moins d'expérience ou qui commencent le gaélique pour justement qu'elles progressent et qu'elles s'intègrent au groupe France en vue, si elles le souhaitent, si ça les intéresse de faire partie de l'aventure et de participer aux World Games.
Donc voilà, il y aura trois entraînements, si je ne dis pas de bêtises, sur le week-end. Est-ce que ce sera accès au public ? Les gens pourront peut-être découvrir au loin, peut-être sur les abords du stade, le sport, ou pas du tout ?
Oui, c'est clairement l'occasion, si vous voulez voir du football gaélique féminin avec un bon niveau, on sera au complexe de la Baumette. On est tout au fond, en fait, c'est le terrain B à côté des terrains d'entraînement du SCO Football Angers. Donc n'hésitez pas à vous déplacer, à venir voir en même temps que vous vous baladez dans le complexe. On sera ravis d'avoir un peu de public.
Et au niveau de l'équipe, on sait qu'il y a plusieurs Angevines. Alors combien exactement ?
Alors il y a 4 Angevines qui vont participer à ce stage-là. Donc il y a des anciennes et puis des nouvelles aussi.
Sur un groupe de combien, pardon ?
Sur un groupe d'une trentaine de filles.
Voilà. Donc voilà, ce qui est assez important. Il y a un club en particulier qui est plus représenté que les autres ?
On va avoir quelques clubs qui vont être fortement représentés, notamment, j'ai envie de... Comme ça, de tête, ce serait Rennes et Clermont-Ferrand, qui ont un effectif assez conséquent dans le groupe France.
Donc voilà, ça va être vraiment l'équipe de France qui se prépare. Pourquoi ce choix ? Est-ce que c'est notamment toi qui es présidente de Des Anjou Gaëls qui a œuvré à ce que ça se passe à Angers ? Ça te tenait à cœur ?
Alors, avec le club, oui, on a proposé. Et puis, il y a différents choix. C'est-à-dire que la sélectionneuse Claire Bonal est originaire d'Angers. Donc aussi, elle connaît bien le territoire. Et puis, c'est assez central, en fait, pour, en termes de regroupement, pour que les joueuses qui viennent de la France entière puissent se déplacer assez facilement sur le temps d'un week-end. Parce qu'on n'est pas professionnel, on est amateur, donc amatrice. Donc ça se passe sur notre temps personnel. Donc c'est de l'organisation aussi, un peu de coût. Donc Angers est assez central pour faire un premier stage et pour que tout le monde puisse venir et participer.
On le disait, ce sera donc en vue de la compétition des World Games donc, qui se déroule en Irlande. Est-ce que tu peux expliquer un peu aux auditeurs justement en quoi consiste ces espèces de championnat du monde, c'est ça qu'on peut le dire comme ça ?
Oui, c'est ça, c'est le championnat du monde, la traduction française. Grosso modo, ça a lieu tous les 3 ans. Ça se passe à chaque fois en Irlande. Là, c'est dans la ville de Derry, en Irlande du Nord. C'est sur une semaine. Donc, grosso modo, on a une centaine d'équipes qui vont faire le déplacement. C'est un peu un championnat à part et unique, puisqu'on peut avoir des représentants tels que des pays, comme la France. On peut avoir des villes aussi.
Okay.
Et on peut avoir New York, qui est l'équipe championne en titre chez les féminines et chez les masculins.
Okay.
On va avoir aussi des continents, Asie, Europe, qui vont être représentés. Et tout ça, ça fait une centaine d'équipes qui, sur la semaine, vont s'affronter. Un grand moment fort et qui est un peu le rêve de toutes les personnes qui font du Gaelic, les finales masculines et féminines vont se dérouler à Croke Park, donc à Dublin.
Okay.
Donc le dernier jour où, c'est le stade mythique où se joue le sport gaélique. Okay. En Irlande. Et il y a plus de 80 000 places.
Ah oui, donc c'est...
Donc c'est un gros événement qui se finit un peu sur les chapeaux de roue avec cette forte représentativité du gaélique. Ouais. Au stade. Quoi.
Et en prenant un peu d'avance sur ce qui va se passer cette année, quelles sont un peu vos ambitions pour cette compétition ?
Alors pour les féminines,
pour situer un peu le niveau.
Bah justement, l'été dernier, donc au mois de juillet, l'équipe a fait les championnats d'Europe en Galice.
Okay.
Et elles avaient perdu en 2018 en finale, donc elles étaient deuxièmes. Et là, contre la Galice, et là elles ont réussi à décrocher le titre. Donc,
okay.
On est championne.
Championne d'Europe.
Donc championne d'Europe, et l'objectif c'est de faire, au moins d'atteindre la finale. Je parle pour les sélectionneurs, mais je pense qu'il y a l'effectif pour que les filles, tout le monde, le groupe aille en finale. Ouais.
C'est vrai, qu'est-ce que tu as une question ?
Le niveau européen, plus élevé que le niveau mondial ou...
C'est équivalent. C'est un peu compliqué à dire parce que du coup, moi, je n'ai pas participé au dernier World Games. Je dirais que quand même l'Europe est plutôt bien représentée, c'est-à-dire que entre la France et la région de la Galice, on a quand même un niveau de gaélique qui est très bon. Et après, du coup, si je regarde les derniers résultats, on a la ville de New York qui se place à chaque fois bien chez les féminines et chez les masculins, quoi. Après, pour le reste, je connais moins le détail des autres clubs et des autres régions.
Parce que c'est vrai qu'on voit souvent pour les différents sports, ne serait-ce que le basket surtout, le foot, c'est un peu moins, je trouve, on voit moins la différence, mais au basket, souvent, on entend souvent que le championnat européen est beaucoup plus dur à jouer que le championnat mondial. Donc...
Ouais. Et du coup, par rapport à ce week-end, il y a aussi quand même un objectif, j'imagine, sportif, de progresser. Est-ce que la coach un peu vous a prévu quelque chose de particulier ? Est-ce que c'est plus tactique ? Est-ce que c'est du renforcement ? Qu'est-ce qui est prévu d'un point de vue sportif ?
Alors, ils ont un peu gardé le secret. Par contre, ils nous ont demandé nos attentes, qu'est-ce qu'on souhaitait faire. Okay. Pendant ce stage-là. Si je reprends les stages qu'on a fait, notamment celui de l'année dernière, il y aura peut-être quelques tests un peu cardio, des tests techniques. Et puis surtout du jeu. Ça va être la première fois qu'on va se retrouver après du coup le gros temps qu'on a eu en, en Galice cet été. Donc il y a aussi besoin de rejouer ensemble, d'avoir du temps de jeu, de la pratique. Donc je pense que sur ces trois jours-là, on aura un peu un mix des trois.
Donc, puisque la saison au niveau des clubs a débuté quand ?
La saison, elle commence pour les féminines, elle commence tout juste là au mois de novembre. Elle va s'échelonner à un rythme assez régulier jusqu'au mois de juin, où va y avoir les finales du championnat de France.
Ouais, donc c'est vraiment une remise en marche.
Un peu, ouais. On a fait quelques matchs amicaux, des tournois à droite à gauche, mais là, c'est mois de novembre, c'est vraiment le retour du championnat. Je sais que les Bretonnes ont commencé un peu plus tôt, mais ça date du mois d'octobre, donc on est tous sur un format de reprise. Donc c'est pour ça que ce stage-là, pour les féminines, il va être le bienvenu pour qu'on se retrouve ensemble et qu'on joue.
Ouais, ça permet de faire l'état des lieux sur les petits bobos qui pourraient arriver, des choses comme ça, anticiper, ouais, et tester des nouvelles choses aussi.
Exactement, c'est ça.
Et du coup, par rapport au club, on fait une bonne transition. Quelles sont les autres actualités qu'ont les Anjou Gaels?
Alors ça tombe bien parce que ce week-end les garçons sont allés jouer à Mondeville pour la première manche de la Ligue Centre-Ouest, donc c'est un peu le format régional de notre championnat, et ils ont plutôt bien performé. Je crois qu'ils ont gagné leurs deux matchs et fini sur un match nul, ce qui les classe premier de la manche 1. C'est un championnat qui joue en trois manches, il y aura une manche au Mans dans un petit mois, au mois de décembre. Et la finale se déroulera fin janvier à Angers, une finale de classement. Okay.
C'est assez intéressant par rapport à ça.
Oui, c'est assez intéressant.
D'organiser, encore une fois, Angers, le club prend un peu d'importance chaque année.
Bah, oui, on s'est un peu rodé en accueillant une manche chaque année. Et puis maintenant, c'est vrai qu'avec le calendrier qui s'est un peu étoffé chez les garçons et chez les féminines, avec des ligues régionales, puis après les manches fédérales, puis après les manches de championnat de France, on commence à avoir un calendrier assez structuré. Et du coup, c'est vrai que, bah, je le redis, en fait, Angers, par rapport aux Gaéliques, par rapport aux clubs qui sont autour, est plutôt bien positionné. Donc, et puis, on a aussi la chance d'avoir des équipements sportifs, notamment au complexe de la Baumette, où on est installé depuis l'année dernière. Le contact avec la ville est bon, donc dans l'organisation des événements, c'est plutôt facile. On n'a pas de blocage sur ce côté-là, donc c'est assez facilitant et agréable. Donc c'est vrai qu'on y va. Donc là, on aura une manche à domicile au mois de janvier, qui sera la finale régionale. Et puis, on aura une manche aussi de championnat de France chez les féminines au mois de mai. Donc ça rythme pas mal l'actualité.
C'est vrai qu'une dernière question.
Justement, le fait d'avoir maintenant vraiment un lieu dédié, ça ouvre d'autres perspectives. Peut-être ouvrir des nouvelles catégories, attirer plus de monde, des choses comme ça pour l'évolution du club.
Bah, ça serait, oui, c'est des projets, je dirais, sur le moyen terme, parce que actuellement, c'est vrai que c'est de conforter nos sections seniors, donc 16 ans et plus. Là, on a eu un regain d'effectifs cette année, après quand même quelques années difficiles, Covid, post-Covid, où c'était stable, zéro recrutement. Donc là, ouais, on est plutôt sur une phase de croissance. Et du coup, c'est pour ça aussi que le club essaie de dynamiser en accueillant plusieurs manches, en faisant des choses pour que le Gaelic puisse se développer en termes de jeu et de présence et de nouveaux joueurs. Quoi.
Et puis, il y a encore toutes les manifestations sportives dans l'année. Comme tout Angers bouge, des choses comme ça.
Oui, il y a tout Angers
qui permettent d'exposer un peu plus le sport. Et
ouais, on essaye aussi de faire quelques événements qui mêlent aussi la culture de l'Irlande, notamment à la Saint-Patrick. Pour nous, c'est un gros temps fort qu'on essaye de développer. Donc, en créant un peu un événement culturel. L'année dernière, on l'a fait avec le tiers-lieu du 122. On réfléchit à la même formule avec eux cette année. Donc, aussi, on aimerait bien s'inscrire au-delà du côté sportif, d'avoir un peu un rendez-vous culturel, culture irlandaise sur Angers.
Ouais,
ça nous intéresse et puis ça va aussi avec les valeurs du club et du Gaelic.
Ouais, ça va au-delà du simple sport finalement.
Oui, c'est un peu ça aussi qu'on aime faire découvrir en plus de jouer au ballon sur le terrain. C'est tout le côté de l'Irlande, en accueillant aussi des Erasmus irlandais, des Erasmus irlandaises qui viennent, même des gens qui sont expatriés, qui découvrent le club et qui viennent. Donc il y a une certaine ouverture, une curiosité de du sport qui gravite autour du pays de l'Irlande, quoi.
Ok, eh bien, très bien. Merci, Elodie, d'avoir été avec nous donc, dans Génération Sport pour parler donc, du stage de préparation de l'équipe de France féminine de football gaélique qui aura lieu, donc, je le redis, du 11 au 13 novembre prochain, donc c'est ce week-end. Ce sera à La Baumette, donc voilà, vers le centre d'entraînement du SCO, et du vendredi au dimanche. Voilà, c'est bien tout ça, toutes les infos sont bonnes.
Oui.
Un dernier mot à rajouter ou c'est bon?
Si vous voulez venir essayer le football gaélique, c'est le mardi soir, de 19h30 à 21h30, à La Baumette, toujours.
Eh bien, c'est noté pour les auditeurs. Merci d'avoir été avec nous. On va passer, sans plus tarder, à une pause musicale. Et puis, bah, voilà, on va après revenir pour parler de toutes les actualités locales et internationales.
Lift me up, hold me down, keep me close, safe and sound. Safe and sound.
Retour dans Génération Sport. Alors j'ai oublié d'annoncer le titre de la musique. C'était Rihanna, c'est son tout dernier titre, Lift Me Up, qui est issu du dernier Black Panther 2. Donc voilà. Peut-être c'est vrai que tu iras le voir ou pas?
Ah, c'est prévu. Hein.
Ah, c'est déjà prévu.
En 4DX en plus.
Oh là là, parfait.
Ouais.
On va se rebasculer sur le sport. On va parler de toutes les actus locales et internationales. Vous en avez l'habitude. On va évidemment commencer par le football et on commence d'ailleurs à s'habituer. Mais le SCO a encore perdu ce week-end. Les Angevins étaient confrontés aux dauphins du PSG, le RC Lens, lors d'une réception à Raymond Kopa qui sentait un peu la poudre. Le match a été clairement à sens unique avec une équipe nordiste qui a rapidement ouvert le score par l'intermédiaire de Wesley Saïd, bien servi par Florian Soutoka. En seconde période, pas de réaction du côté du SCO, qui perd même sur blessure Amine Salama. Et c'est sur coup franc que Lens va doubler la mise avec Facundo Medina, qui profite de la passivité de la défense angevine une fois de plus. Sans être convaincant, le SCO va tout de même réduire le score grâce à Mia Blazic sur corner. Le SCO qui donc s'incline 2-1 et concède donc sa 6e défaite consécutive, la 10e de la saison. Le dernier match contre Lille dimanche prochain avant la trêve devrait être, on va pas se mentir, fatal à Gérald Baticle. D'autant plus que la situation s'est tendue ce week-end un petit peu plus entre les supporters et la direction. Cédric, je vais changer un peu ma question par rapport aux autres semaines. La question, c'est plus de savoir est-ce que...
Qu'est-ce qui pourrait le sauver ?
Non, oui, non, mais non, je vais enlever le côté Baticle. Là, je parle vraiment du SCO en lui-même. Est-ce que toi, tu crois encore en maintien en tant que suiveur un petit peu du SCO ? Est-ce que tu y crois ?
Sur le terrain, il y a toujours une possibilité, puisqu'on arrive à peu près à la moitié de la saison, donc il y a encore... la moitié du chemin à
logiquement,
faire.
Oui, logiquement, c'est faisable.
C'est faisable. Historiquement, c'est quasiment impossible.
Voilà.
mais à côté de ça, je pense que le problème est même plus grave que en fait, de savoir si on va rester ou pas. C'est... Là, on l'a vu, il y a des têtes qui vont tomber forcément à un moment ou l'autre.
Dans la direction.
Le SCO n'est pas encore le club qui sort son entraîneur. S'il le sort, bah, ce sera peut-être le dernier, on va dire, à l'avoir fait. Non, ce qui est un petit peu plus inquiétant, parce que c'est compréhensible. Hein. Je comprends les gens qui en ont marre de payer des fortunes pour aller voir les matchs, de
ne
pas voir un beau spectacle, et surtout pas avoir de résultats, parce que, bon, à la rigueur, je pense qu'en ce moment. Un vieux 1-0, hein, ça nous conviendrait.
Hein,
du moment qu'il y a les 3 points, qu'on remonte, voilà.
On a besoin de ça.
Mais le problème, là, c'est qu'on voit, c'est qu'il y a une grosse rupture. Et, je ne sais pas réellement... on sait qu'il y a eu une discussion d'à peu près une heure, je crois.
Ouais, ça s'est un peu tendu. Donc, c'était entre Saïd Chaban et les supporters.
Voilà, avec la direction.
C'était une heure, oui, peut-être.
Ouais, je crois que j'ai eu entre 40, enfin, en tout cas, une quarantaine
long,
de minutes.
Ouais,
ça...
Et apparemment, c'était assez houleux.
Bah déjà oui, il y a enfin
qui peut s'entendre.
Bon, il y a eu une mini invasion de
oui.
des nouveaux salons
dans
VIP.
La nouvelle tribune, ouais, c'est ça.
Voilà. Bon, c'est vrai que techniquement, symboliquement, je comprends qu'ils ont été à l'endroit où il fallait. Hein.
Bah ça c'est une portée symbolique, t'as raison.
Cette tribune là, c'est un peu enfin le début du commencement du manque d'argent hein, quelque
ouais,
part
et de la galère quoi.
Voilà.
Et des stades vides et de tout ça.
C'est quoi. Ça donc voilà, mais bon quand on est dans une période où on a besoin de plus que des actions sur le terrain. Il faut aussi les supporters à côté.
Bien sûr.
Il faut aussi que les historiques du club réagissent. Je n'ai pas vu beaucoup de déclarations dans ce sens-là, en tout cas.
Ouais.
Pas beaucoup de réactions, pareil, de ceux qui sont en place. Donc, non, ça, c'est un peu inquiétant. Il y a la Coupe du Monde qui va un peu masquer la chose.
Mais
voilà,
en janvier, ça
en janvier c'est ça.
Ça va revenir comme un boomerang.
On fait quoi ?
C'est ça. Et il y avait un autre aspect qui est intéressant, parce que donc, l'équipe, notamment, a sorti un article aujourd'hui qui disait qu'il y a vraiment un vrai frein à limoger Gérard Baticle, puisqu'en fait, il est en contrat jusqu'en 2025. C'est donc encore 3 ans de contrat, 3 saisons. C'est vraiment un licenciement qui va coûter cher au club. Qui est déjà en grande difficulté, qui ne s'est pas fait racheter, qui a eu du mal à investir dans le mercato et qui, voilà, aujourd'hui est obligé de continuer avec un entraîneur qui. Alors, j'ai rien contre lui en particulier. Bon, effectivement, il y a les résultats qui sont accablants, mais je pense aussi qu'il y a un côté où il a perdu la confiance de ses joueurs. On le sent, il n'arrive surtout plus à les motiver. Moi, ce qui m'a frappé sur le match, parce que j'ai pu voir un peu la fin, il y a 2-0. Le SCO doit chercher son maintien et ne fait rien. Et voilà, c'est pas anodin, c'est dans le comportement aussi des joueurs que ça pêche actuellement. En termes déjà d'effectifs, la qualité elle est un peu basse, mais en plus sur le terrain, il n'y a pas d'envie de se battre, il n'y a pas d'envie de se battre pour ce club, et ça c'est assez dommage. Je voulais rajouter aussi notamment, donc ça c'est plus une info, que Saïd Chaban notamment est venu dans le vestiaire à la fin du match engueuler un peu les joueurs justement sur cette combativité qui était un peu absente contre Lens, en plus de apparemment le directeur sportif Laurent Boissier qui est aussi venu à un entraînement une fois dans la semaine. Donc voilà, il y a un peu, on sent que ça a envie de se bouger, mais c'est plus panique à bord, on essaie de décoper un peu, mais voilà quoi.
Ouais, enfin après, est-ce que c'est la bonne solution d'aller les engueuler dans le vestiaire maintenant?
Bah oui, c'est sûr qu'on sait pas quoi.
Je suis pas sûr après, hein. Hélas, le mercato de TT, c'est qui l'a fait, hein? C'est pas l'entraîneur. Enfin, l'entraîneur l'a fait, mais
justement,
il l'a fait avec les deniers que le club a bien voulu lui donner. Donc,
c'est clair.
C'est souvent le cas, de toute façon, mais on voit ça dans d'autres clubs, hein, qu'on limoge les entraîneurs, ça se masque derrière l'entraîneur en disant c'est sa faute, il n'a pas su faire passer le message, on le dégage, et en fait quand on constate un peu derrière, c'est que c'est aujourd'hui la direction qui voit l'argent avant le jeu, et à se demander si quelque part on n'a pas envie d'aller, que le SCO aille directement en Ligue 2 pour réduire des coûts, pour pouvoir peut-être le rendre aussi plus facilement.
Après, voilà,
ça devient très compliqué tout ça.
Faire gaffe aussi à une autre redescente qui serait vraiment un drame. Donc voilà, je pense pas que la relégation soit la meilleure solution.
Non.
Après, effectivement, d'un autre côté, si on reste en Ligue 2, en Ligue 1 par miracle, qu'est-ce qu'on va y faire?
C'est surtout est-ce qu'on va passer la DMCG?
Ouais, c'est ça. Et donc
ça fait 2 ans que ça chauffe de pas passer.
Rester
ça passe
en Ligue 1, ok, mais avec quel effectif, avec quel joueur et avec quel argent, comme tu dis. Donc voilà. Bon, ce sera à voir. De toute façon, on parlera encore du SCO Lille. On sera sûrement là. Alors Cédric, est-ce que Bathilde doit partir comme chaque semaine finalement?
Parce que la semaine prochaine, on pourra dire il a survécu à la première saison.
C'est ça.
Enfin,
oui,
la première partie de la saison.
C'est ça, mais ce serait un exploit, franchement. Enfin. Déjà, ce sera un exploit de battre Lille, parce que Lille, je trouve que c'est une très belle équipe, qui a un très beau jeu cette année, et qui est clairement favori contre le SCO. Enfin, il n'y a pas besoin de faire de dessin, c'est assez évident. Donc voilà, ils n'ont pas été capables de faire un exploit contre Monaco, ils n'ont pas été capables de faire un exploit contre Lens. Je les vois mal renverser la vapeur contre Lille.
Petite chance, peut-être, c'est que ce sera le dernier match de la saison avant la Coupe du Monde. Donc les offensifs peuvent tourner.
Effectivement.
Il y a peut-être un coup à faire.
Attention aussi à. Parce qu'on commence à voir, je trouve, dans les championnats de la Ligue 1 ou étrangers, des joueurs qui tu sais, se calment un peu. Parce qu'il y a la Coupe du Monde, donc ils ne vont pas à fond. Messi, par exemple, contre la Juve, il était un peu tranquille par rapport à ça. Le Real, hier, pareil, qu'il y a pas mal d'internationaux, ils ont perdu, tu vois. Et donc, je me dis, il y a notamment 3 Marocains. Maintenant il y en a 3 parce qu'il y avait Unai Boufal. Apparemment Salama peut être aussi présélectionné avec le Maroc, donc qui joue la Coupe du Monde, on rappelle. Et donc il y a peut-être ce côté en mode on va y aller mollo parce qu'on veut jouer la Coupe du Monde et ça se comprendrait. Après, je crois de mémoire qu'il n'y en a pas d'autres qui vont la disputer. Ça m'étonnerait que Pierrick Capel soit appelé par Deschamps demain, à moins que tu aies des infos par rapport à ça, mais normalement ça devrait. Voilà.
La seule info que j'ai, c'est qu'apparemment, il ne voudrait pas élargir la liste à 26.
Ah, voilà, aucun rapport avec Pierrick Capel. Il faudrait allonger beaucoup pour que Pierrick Capel soit appelé, parce que là, ça peut être compliqué. Bref, mais en tout cas, voilà, pour le match qui va les opposer, donc dimanche 15h à Lille. Je crois que Lille nous réussit plutôt en championnat, en Ligue 1. J'ai des mémoires de victoires, notamment contre Lille. Donc, à voir par rapport à ça, si on est quand même capable de déjà stopper cette mauvaise série que le SCO est en train d'entretenir. On va passer maintenant au basket avec, pour commencer, l'UFAB, qui connaît un début de saison un peu délicat, avec donc 2 défaites inaugurales en championnat. La dernière en date fut samedi dernier contre les championnes de France en titre Bourges. À l'extérieur, les Angevines ont sombré principalement en première période, seulement 16 points en première mi-temps. C'est assez faible, 7 dans le premier quart-temps. Il y avait déjà 44 à 16 pardon, à la pause. Un écart de 28 points qui a été conservé par les Berruyères à la fin de la rencontre avec ce score de 79 à 51 en faveur des pensionnaires d'Euroleague. Isis Arando s'est notamment exprimée sur Ouest France en disant que ce n'était pas normal de rater autant cette première mi-temps, parce que même si l'adversaire est beaucoup plus fort, il n'y a que 16 points d'inscrits, c'est quand même assez peu en 20 minutes. Donc voilà, pourtant donc, les joueuses d'Aurélie Bonan ont remporté leur premier match de leur saison la semaine dernière avec ce succès en Eurocoupe contre les Tchèques de Brno. Et victoire également facile donc pour les Angevines, je le disais, 89-64, qui leur permet donc de se replacer à la deuxième place du groupe. Et elles jouent, je crois, demain soir, Dubrovnik, donc en... Rugesa, enfin je ne sais plus. C'est un club croate. Elles viennent d'arriver à Dubrovnik, j'ai vu sur les réseaux sociaux de l'UFAB. Donc voilà, un premier déplacement, on en parlait justement en pré-saison, un peu de tout ça, de ces déplacements un peu à l'étranger qui vont être compliqués pour elles. Voilà, c'est un premier rendez-vous pour voir comment elles vont gérer tout ça.
Enfin, surtout le premier rendez-vous avec un voyage avec longue distance.
Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, parce que c'était à Charleville-Mézières le premier match. Donc voilà, là, ça va être un vrai rendez-vous de savoir si elles encaissent un long voyage comme celui-ci.
Après, vaut mieux qu'elles se prennent une mauvaise entrée de jeu dès maintenant. J'ai envie de dire que ça arrive au deuxième match de la saison de sombrer complètement dans le premier tiers.
Oui, tu parlais du match contre Bourges, bien sûr.
Que ça arrive un peu plus tard dans la saison. Où,
on peut en tirer dans ces
moments. Oui, je pense que c'est aussi, il y a sûrement la fatigue de la compétition déjà. Qui s'est fait ressentir. Il y a l'adversaire aussi, forcément. Puis il y a des automatismes à retrouver.
Et puis quelque part, Angers retombe dans la normale.
Oui.
L'année dernière, elles ont un peu surperformé. Elles étaient vraiment à un niveau qu'on ne les attendait pas. Là, c'est retour à la normale. Elles ont joué deux très bonnes équipes. Là où on les attend, ce sera pour les matchs décisifs pour le maintien contre des équipes justement qui vont batailler pour ne pas aller en play-down. Donc voilà, pour l'UFAB, chez les masculins, tout va bien pour l'Étoile Angers Basket et Cholet, qui ont connu de très beaux succès la semaine dernière. L'EAB s'est dans un premier temps qualifié pour la demi-finale de Leaders' Cup en éliminant Chalon-sur-Saône. Son adversaire en demi-finale n'est pas encore connu. En phase régulière de Pro B, tout se passe également au mieux avec une troisième victoire en quatre matchs obtenue ce week-end contre La Rochelle, qui est l'autre promu du championnat. Un succès est donc 88-83 qui leur permet de monter à la quatrième place de Pro B. En Betclic Elite, Cholet tutoie aussi les cimes du classement avec une place sur le podium bien méritée après un début de saison canon du côté des Mauges. Et cette parfaite entame du championnat s'est une nouvelle fois illustrée ce week-end avec une septième victoire décrochée contre Paula Cortez 93-83. En Coupe d'Europe, c'est plus compliqué pour les Maugeois qui ont concédé leur troisième défaite de la saison dans cette compétition contre les Roumains d'Ora Dea 77-69. On va parler maintenant rugby, puisqu'il n'y a pas de match cette semaine pour le SCO Handball. On va parler des deux équipes de fédéral qui l'ont tous les deux emporté ce week-end. En fédéral 2, les féminines ont gagné 26-20 contre le Havre et ont pu remonter à la deuxième place de leur poule. De leur côté, les masculins l'ont emporté contre le 15 de l'Erdre. C'était donc 36-30 et ils se replacent également dans les équipes du haut tableau avant d'affronter Chinon la semaine prochaine. On va passer au hockey sur glace. Bonne semaine pour les Ducs d'Angers qui ont battu à deux reprises les Boxers de Bordeaux dans deux compétitions différentes. Mercredi, c'est en Coupe de France que les Angevins se sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition en s'imposant 2-1. Deux jours plus tard, les Bordelais avaient l'occasion de reprendre leur revanche en Ligue Magnus, mais les Ducs l'ont une nouvelle fois emporté sur le score de 4-3. Et donc là, je crois qu'il y a une petite pause au niveau des matchs. Et dans une dizaine de jours, le rendez-vous d'une saison aura lieu donc à Cardiff à l'occasion du prochain tour de HF Continental Cup. Voilà, je vais y arriver.
Tu l'as Continental Cup, c'est plus simple.
Oui, je vais pas me forcer. Personne ne dit l'UEFA Champions League. C'est vrai, tout le monde dit la Champions League. Donc la Continental Cup qui aura lieu donc dans une dizaine de jours. Donc voilà, du côté du Pays de Galles et de Cardiff. Donc voilà, les Ducs auront peut-être quelque chose à dire de ce point de vue-là sur ce tour-là.
Ouais, ça va arriver vite. Hein, ça. On sait qu'on a, je crois, quelques Ducs aussi qui ont été appelés en sélection de France.
Oui, c'est ça. On est d'accord. Il y a un rassemblement.
Il y a un rassemblement. Voilà, ouais, oui. Ça.
C'est une petite trêve internationale.
Donc, voilà, c'est pour ça.
ça permet de souffler.
Ça
aussi
va permettre de souffler, oui, oui. Et puis, ça, je pense, va leur faire aussi du bien pour reposer un peu l'organisme, tout ça, pour pouvoir attaquer directement, voilà, sur ces matchs-là qui vont sûrement être compliqués. Hein. On va quand même avoir du haut level cette fois-ci, un peu plus que ce qu'on a vu à l'Ice Park. Donc, ouais, non, ça va être intéressant à suivre, en tout cas.
Bon, je te propose, à part si tu as d'autres infos locales, qu'on passe aux infos internationales. Pas d'autres locales, non?
Non, bah juste que apparemment les championnats de c'était du monde qui avaient eu à l'Ice Park ont eu un fort succès, du coup.
Ok, ouais.
Voilà, on a eu chez les masculins, je crois qu'on a eu une victoire française.
Très bien.
Donc voilà, donc en tout cas, non, c'est bien. Comme on dit, voilà, l'Ice Park est un bel outil pour promouvoir le hockey, mais aussi voilà, maintenant
les sports de glace.
Les sports de glace, voilà. Donc,
c'est
des choses intéressantes. Quoi.
On va donc passer à l'international avec, pour commencer, le football. Je vais vous donner les résultats de Ligue 1. Vendredi, Troyes et Auxerre se sont séparés sur un match nul, un partout. Ajaccio a renversé Strasbourg à domicile 4-2. On l'a dit, Lens a battu Angers 2-1. Paris s'est également imposé à l'extérieur contre Lorient 2-1. Reims l'a emporté 1-0 contre Nantes. Même score pour Nice contre Brest. Un partout entre Clermont et Montpellier. Clermont qui a raté deux pénaltys. Monaco l'a emporté 2-0 contre Toulouse. Match nul entre Lille et Rennes, un partout. Et puis l'Olympico a été remporté par Marseille 1-0. On va passer maintenant à la Ligue des Champions, si vous voulez bien, avec les affiches des huitièmes de finale qui ont été tirées au sort. Donc c'était hier midi. Et on parlait. Non, on n'a pas parlé puisque ça s'est passé la semaine dernière.
C'était mardi, mercredi. Ouais, ouais.
Donc le PSG qui n'a pas fait le boulot entre guillemets pour.
Qui l'a fait, mais on va dire à moitié, quoi.
Bah, qui ne l'a pas fait, en tout cas, sur les matchs face au Benfica, notamment.
Voilà.
C'est par rapport à ça que je voulais réagir.
Si on fait en général, oui.
C'était sur l'ensemble de la campagne qu'ils n'ont pas assez fait le boulot, parce que le PSG a terminé donc deuxième de son groupe. Bon, Marseille a été éliminé, donc voilà, je ne sais pas si on va y revenir, mais en gros, Marseille a pris un but à la dernière seconde et n'est même pas renversé en Europa League. Si Max avait été là, il aurait sûrement pesté, il aurait crié sur tous les toits, bref. Le PSG.
En tout cas, on a eu une belle excuse pour cette élimination, de la part de l'entraîneur.
C'était la comédia dell'arte.
C'est la faute des supporters qui ont fait trop de bruit.
Ouais, c'est ça, alors qu'ils se vantent toute l'année d'être la meilleure équipe, enfin le meilleur public de
c'est
France.
C'est ça, oui. Non,
mais là, bon, bref. En tout cas, donc le PSG termine deuxième, donc on se dit tous à ce moment-là, ils peuvent tomber sur un premier groupe et ça peut être important. Et c'est ce qui est arrivé puisqu'ils vont jouer le Bayern Munich, tout simplement. Donc voilà, ça va être le gros choc de ces huitièmes. L'autre choc de ces huitièmes de finale, c'est Liverpool qui joue le Real Madrid. City qui jouera la Psych. Dans les autres affiches, on aura Tottenham qui va jouer le Milan, Chelsea contre Dortmund, Inter Milan contre FC Porto, l'Eintracht Francfort contre Naples et Benfica contre Bruges. Donc voilà, le PSG, s'ils avaient terminé premier, ils auraient joué Bruges. Je pense que c'est plus simple que le Bayern. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais
c'est même pas sûr qu'ils auraient joué Bruges. En tout cas, si on inverse réellement comme ça, oui, ça ils sont plus simples. Après, voilà, on voit aussi les limites de ce format de tirage. Hein. Faut qu'on explique pourquoi le Bayern n'est pas un autre club.
Oui.
En fait, dans les clubs qui restaient, il y avait donc deux clubs allemands,
ouais,
et un club, je crois que c'était italien.
Et l'Inter, peut-être ?
Oui, voilà, c'est ça. Donc, le Bayern ne pouvait pas jouer contre l'autre club allemand.
Et ne pouvaient pas,
jouer l'Inter puisqu'ils étaient dans la même poule.
Ouais.
Donc c'est pour ça que même là, pareil, c'est un peu délicat, ça fait un peu débat. Ils n'ont même pas tiré la boule.
Ouais. Mais apparemment, c'est normal, c'est dans le règlement.
C'est dans le règlement, mais bon, logiquement, tu vérifies. Quand
après, elle est toute seule, quoi.
Quand on sait que l'année dernière, il y a eu quand même deux fois le même nom.
Bon, ça, c'est un.
Voilà.
Non, bah, pour le coup, il n'y a pas eu de problème. Aussi grave que l'année dernière.
Non, il y a moins.
C'est là ce que tu remets peut-être en question, c'est les règles.
Mais après, voilà, ce qui est valable aussi pour le fait que le troisième de la Ligue des Champions va en Europa et que du coup, ça fait des tours supplémentaires pour certaines équipes. Enfin, voilà, on voit que derrière, c'est pas le jeu qui, c'est l'argent, hélas.
Bien sûr, évidemment. Donc voilà pour les huitièmes. On va enchaîner tout de suite. Je vais vous donner vite fait aussi les grosses affiches de Ligue Europa. Je ne sais pas si tu as jeté un oeil, Cédric, mais il y a des grosses affiches. Manchester United qui joue le FC Barcelone. C'est ouais. quand même assez une belle affiche. On se croirait en finale de Ligue des Champions il y a quelques années.
Pour une qualification en huitième.
En huitième d'Europa League.
Donc, d'Europa League.
C'est vrai que c'est assez marrant. Et surtout, moi, j'adore cette affiche. C'est vraiment légendaire. C'est le FC Nantes contre la Juventus Turin. Il y a deux ans, Nantes était en barrage contre Toulouse. Ils se sont arrachés le maintien. Et ils se retrouvent là en Europa League contre la Juve. C'est juste complètement fou.
Ça va être sûrement compliqué.
Et par contre, ouais, ça va être compliqué pour eux.
Parce que bon, même si on a vu que la Juve, c'était pas trop ça, je pense qu'il y avait...
Je pense que Nantes, ça va faire pour eux.
Ça va être compliqué. Après, il y aura ce côté revanche, je crois, d'une demi-finale.
Ouais.
Voilà.
Ça me dit quelque chose, ouais, de 96, je crois.
Je crois, ou 97, enfin, ouais, des trucs comme ça, ouais. Mais ouais, ouais.
Sinon, on a le Stade Rennais qui jouera Shakhtar Donetsk, donc là c'est un peu plus jouable pour les Rennais.
Compliqué, mais jouable.
Ouais, clairement. Et puis pareil pour Monaco qui joue Leverkusen, je pense que c'est à peu près le même niveau. Faudra faire la bonne perf pour les deux clubs français. Sinon, bon, demain c'est la liste de Deschamps pendant le journal de 20h de TF1. Bon, est-ce que t'as, toi, vite fait, rapidement, parce qu'on a d'autres fois à traiter, est-ce qu'il y a une surprise que t'attends ? Est-ce qu'il y a un joueur que t'as envie de voir dans cette liste, particulièrement ou pas forcément ?
Bah, déjà,
t'attends du DD, tu te fais pas d'illusions ?
Bah, y a peut-être une petite surprise, même si elle paraît logique, ça serait peut-être Giroud qui serait présent, bon, depuis ce qu'on entend depuis quelques jours.
Ouais.
C'est vrai que... c'est pas, enfin, on peut pas le contester, hein. Je veux dire, au vu de ce qu'il a fait durant sa saison, là, il a encore marqué
ce week-end,
il a marqué en Coupe d'Europe encore, donc c'est largement mérité. Après, ce qui fait un petit peu peur, c'est les derniers pépins, voilà, qui sont arrivés cette semaine. On a un Benzema qui est à l'arrêt, on sait pas trop.
Apparemment, il reprend jeudi, apparemment.
Oui, voilà, mais bon, c'est à voir. Je sais plus qui c'est aujourd'hui, ça a été quasiment acté que ça va être très compliqué, qui s'est blessé, je crois, ce week-end.
Ouais, j'ai pas l'info.
Je sais plus qui, mais enfin voilà, c'est. Après, on aura.
Varane, c'est bon.
Varane, oui, ouais, apparemment, qu'on aura peut-être quelques surprises sur le banc de touche, j'ai envie de dire.
Ouais.
Mais en tout cas, bah si, voilà, on aura quand même un absent pour moi. Dans la liste des gardiens, c'est Maignan, quoi.
Donc voilà, on verra. Après, c'est pas sûr, je crois, mais ça peut le faire.
Apparemment, c'était...
Ça pue.
C'était pas sûr, mais voilà.
Bon, bah,
ça serait dommage pour lui, parce que voilà...
Ça récompenserait, ouais. Ça...
C'est ça, c'est les saisons qu'il a accumulées, voilà. Même pour sa progression personnelle, mais voilà. Je pense qu'on va avoir un truc un peu classique à la Deschamps. Hein.
Ouais. Moi, j'attends
c'est ce
pas.
Qui fait peut-être un peu peur aussi. Quoi.
Ouais, je ne m'attends pas forcément de surprise. Je pense que, ouais, bah, évidemment, Giroud, j'aimerais bien qu'il soit pris. Je ne pense pas que ce sera une surprise, je pense, parce que c'est un cas de l'équipe de France. J'aimerais bien voir, alors c'est personnel, mais j'aimerais bien voir Ndombele dans cette équipe, parce qu'il revient bien avec Naples. Et puis au milieu, ça manque de monde. Je pense qu'il peut apporter quelque chose, parce que après, voilà, j'aime beaucoup ce joueur. Donc voilà, on verra demain. Je pense que la semaine prochaine, de toute façon, on
fera
la liste.
Oui.
On parlera aussi de la Coupe du Monde. On fera sûrement une émission spéciale. Peut-être qu'on peut parler également du fait qu'on va peut-être commenter. Donc on ne sait pas encore.
On verra
la réponse prochainement. On ne va pas faire d'annonce évidemment trop rapide. Donc voilà, on attend la réponse pour savoir si on couvrira notamment le premier match des Bleus. On va passer au tennis, puisqu'il nous reste 12 petites minutes. L'info de la journée, on l'a dit, c'est la victoire incroyable de la Française Caroline Garcia au Masters à Fort Worth, au Texas. Après être venue à bout de la grecque Sakkari en demi, la Lyonnaise a battu en finale la Biélorusse Sabalenka en 2-7, 7-6, 6-4. Une vraie performance qui fait rentrer Garcia dans la légende du tennis féminin français, puisqu'elle est seulement la deuxième tricolore à remporter ce prestigieux tournoi de fin d'année. La Française monte même à la quatrième place au classement WTA cette semaine. Cédric, c'est vraiment une performance assez incroyable qu'elle vient de réaliser.
Ouais, parce que si on m'avait dit en début de saison qu'elle aurait un parcours comme ça, j'aurais pas forcément cru.
Elle a gagné un Masters 1000.
Elle a gagné un Masters 1000.
Elle a fait une demi-finale de Grand Chelem.
Ouais, ouais, ouais.
Et elle gagne le Masters.
Il y a eu une évolution. Je ne sais plus si elle n'a pas changé entre-temps d'entraîneur, il me semble.
Justement, c'est là, juste avant le Masters, je crois 2 semaines avant le Masters, elle a changé d'entraîneur. Et elle a réussi à gagner quand même. Moi, je trouve ça fou.
Mais c'est une belle surprise. Ouais. Après, pareil, on est en fin de saison, donc est-ce que c'est pas un peu le facteur chance aussi qui a joué, et du coup, parce qu'elle était peut-être un peu plus fraîche que les autres.
Ouais, elle revenait blessure, je crois.
Ouais, voilà. Donc, voir, ça va arriver très vite, hein, l'Open d'Australie, enfin, même les tournois qui seront un petit peu avant. Mais en tout cas, oui, fait toujours plaisir de voir quand même qu'il
est
dans le top 10 maintenant, une Française. Bon, on va pas gâcher notre plaisir. Quoi.
Bien sûr. Chez les hommes, il y a eu une vraie passation de pouvoir à l'occasion donc, du Paris Rolex Masters qui se terminait donc, ce dimanche. Le Danois de 19 ans seulement, Rune, s'est imposé en finale contre le Serbe Djokovic en 3-7, 3-6, 6-3, 7-5. Donc une vraie perf de la part du Danois qui est vraiment jeune et qui incarne cette nouvelle génération, la next gen, qui arrive du côté du tennis masculin.
Avec peut-être une petite affaire Djoko.
Alors
avec
oui, j'ai
avec des suspicions de dopage.
J'ai vu passer ça sur les réseaux. Ouais.
Ouais.
Son coach, enfin son staff qui se cache pour mettre des trucs dans sa gourde. Bizarre.
À voir, à voir. Mais bon, c'est vrai que enfin.
Pas accusé sans preuve, mais voilà.
Bah, il y a eu un cas de dopage il y a pas si longtemps que ça encore chez les femmes, donc tout est possible, mais bon.
Et puis,
on suivra ça de.
C'est quand même un joueur qui avait cette polémique de je vais au vestiaire et je remonte le match, tu vois.
Oui, oui, oui.
Notamment sur les anciens Roland Garros. Bref, on va passer au basket. Les Milwaukee Bucks ont vu leur série de 9 victoires de suite s'arrêter à Atlanta lundi dernier avec une lourde défaite 117-98 qui confirme notamment la montée en puissance des Hawks d'Atlanta et surtout voilà, Milwaukee qui était encore la seule équipe invaincue en NBA. Donc voilà, les Bucks de Antetokounmpo qui donc culmine 9 victoires en 10 matchs et donc une défaite. On va faire un petit point sur le classement, même si Faustin n'est pas là et j'espère qu'il nous écoute. En tout cas, au niveau de la conférence Est, donc on l'a dit, Milwaukee est premier avec 9 victoires, suivi notamment de Cleveland et d'Atlanta. Parmi les équipes de bas de tableau, on a les Pistons, notamment de Killian Hayes, l'Angevin. Et puis sinon, on retrouve les Sixers, les Nets dans le ventre mou à la 10e et à la 11e place. Au niveau de la conférence Ouest, il y a pas mal de grosses équipes qui sont en dessous des places qualificatives pour les playoffs, notamment les Spurs de San Antonio, les Timberwolves de Minnesota, notamment l'équipe de Rudy Gobert, le son nom m'a échappé. Quelques secondes. Il y a également les champions en titre, les Golden State Warriors, je vais y arriver, qui sont 12e, les Lakers de Los Angeles, qui sont 14e. Donc voilà, il y a pas mal de surprises par rapport à ça du côté de la conférence Ouest. Et puis, à la première place, on retrouve l'Utah Jazz, les Portland Trailers, je crois, et puis les Suns de Phoenix. Donc voilà, pour le basket, évidemment, Faustin sera là la semaine prochaine pour apporter toute son expertise sur ce championnat américain de basket. Et puis voilà, pour apporter un peu plus d'expertise, donc je le disais, sur ce sujet-là. On va passer au rugby maintenant avec les tests match des Bleus qui préparent la Coupe du Monde 2023 en affrontant l'Australie puis l'Afrique du Sud quelques jours plus tard. Samedi contre les Wallabies, les Français ont été mis en difficulté, mais ont décroché une 11e victoire consécutive, 30-29, un record pour le 15 de France, cette série donc de 11 victoires d'affilée. Samedi prochain, rendez-vous face aux Springboks avec un 12e succès à décrocher. Pour les féminines, une qualification pour la finale de la Coupe du Monde s'est jouée aussi d'un point, mais en leur défaveur cette fois, les Français se sont inclinés en demi-finale contre les All Blacks, 25-24, et elles joueront donc le match pour la 3e place contre le Canada, samedi à 4h30 du matin. Une autre équipe de France féminine dispute une compétition, et là on va parler de handball, avec les Bleus qui jouent l'Euro en Macédoine du Nord. Les deux premiers matchs de la phase de poule ont été bien négociés par les Françaises qui ont vaincu les hôtes macédoniennes 24 à 14 et les Roumaines 35 à 21 deux jours plus tard. Troisième match de poule prévu demain à 20h30 contre les Pays-Bas avec la première place du groupe comme objectif. Voilà pour toutes les actus mondiales sur ce qu'on pouvait dire au niveau d'actu sportive. On va faire libérer l'antenne dans 5 petites minutes. D'abord, j'aimerais remercier quelqu'un qui a participé notamment au développement de Génération Sport. C'est Benjamin Lisambard qui a donc créé, qui est venu à un moment donné, un week-end, et qui nous a dit: tenez les gars, j'ai un nouveau logo pour vous. Et donc on en a utilisé, donc on le remercie de nous avoir confectionné ce magnifique logo que nous avons donc pu poster sur nos réseaux sociaux. Oui, Benjamin, qui est un ancien chroniqueur, effectivement, tu le disais, Cédric. Et donc voilà, c'était quand même un beau symbole qu'il nous fasse ces beaux logos. Tu les aimes bien, toi, personnellement, Cédric?
Ça rafraîchit un peu de l'ancien logo qu'on avait. Ça fait un peu plus écusson.
Voilà, ouais, de club.
De club, voilà. Donc, ça reste dans la logique de l'émission.
Donc voilà, bah, merci encore une fois à Benjamin. Qui nous a fait ce magnifique logo. Si les auditeurs voulaient dire quelque chose à propos de ce logo, le féliciter, etc., n'hésitez pas à nous le dire sur nos pages et on relayera. Et on rappelle également qu'on est présent donc sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Donc pareil, n'hésitez pas à nous suivre. Cédric, je voulais parler d'un autre sujet. Voilà, je voulais savoir si on avait le temps, donc je ne voulais pas forcément en parler directement. Justement, je voulais revenir sur le football avec le PSG qui jouera le Bayern. Quel est, comment sur cette rencontre? Alors c'est dans 3 mois, donc c'est difficile de se pencher réellement sur cet affrontement. Mais comment tu sens ce tirage?
Très compliqué.
Oui, on l'imagine.
C'est très compliqué quand on voit le parcours du Bayern et le nombre de buts qu'ils ont mis. La solidité allemande, hein, on connaît. Hein, c'est,
ouais, une machine à gagner.
Voilà,
quoi.
C'est pas surprenant. Historiquement, voilà, on les a rencontrés que sur les 2 dernières années, je crois, une fois, au final.
C'était pour le PSG?
Le PSG qui rencontre le Bayern, c'est ça.
Quart de finale en 2021 et finale en 2020.
Donc, c'est, je crois, du 50-50 au final en termes de victoire et de défaite. Donc, un peu inquiétant, voilà, de tomber directement sur eux, mais bon, ils seront peut-être un peu, voilà, aussi HS avec la Coupe du Monde, même si, voilà, ils auront le temps de récupérer. Mais bon, comme Paris aussi peut être touché, donc pour l'instant, c'est vrai, c'est dur de pronostiquer un résultat et même de se positionner. Mais en tout cas, pour l'instant, ouais, sur le papier, c'est compliqué. Surtout après ce qu'on a vu, Paris qui n'a peut-être pas trouvé
sa formule, quoi.
Sa formule, et surtout qui n'a pas su forcément contrôler ses matchs comme il fallait, c'est-à-dire soit enfoncer le clou quand il le fallait. Il y a vraiment que le cinquième match où on a vu c'est 8 buts, je crois, qu'ils mettent, voilà, au final. Après, pareil, il y a beaucoup de points à revoir, hein, ne serait-ce que le gardien. Je suis pas sûr que ce soit finalement le meilleur gardien pour le PSG. Hein.
Ouais. Eh ben écoute, on verra ça pour le PSG, ce sera en février prochain. On termine avec d'autres infos, une petite info de judo, de para-judo avec Sandrine Martinet, qui a été sacrée vice-championne du monde de para-judo en Azerbaïdjan. Elle a 32 ans et donc elle est vice-championne du monde, donc c'est assez important dans la catégorie des moins 48 kilos. On rappelle qu'elle avait notamment été porte-drapeau pour la délégation française aux JO de Tokyo, des Jeux paralympiques.
Et on avait aussi 2 représentants de la région en para-olympique, en para-judo,
aux mondiaux.
Dont un membre du club de Bokuse.
Donc voilà, info promulguée par Yann.
Voilà.
pour tout vous dévoiler. Vous entendez le générique en fond, on va bientôt libérer l'antenne pour une rediffusion des plantes vagabondes. On se dit la semaine prochaine avec, on l'espère, le retour de Faustin. Et puis surtout...
La liste des 26.
La liste des 26, 25, 24, on ne sait pas. On vous laisse donc avec la suite des programmes et puis bah, nous on se dit à la semaine prochaine.
À tous sur les ondes de Radio G 101.5.